Même s'ils ne sont pas officiellement éliminés, les Alouettes ont maintenant le regard tourné vers l'an prochain. Au revoir, Tyrell Sutton, et officiellement bienvenue à William Stanback. Plus que 5 matchs pour permettre à Mike Sherman et Kerry Jones de jeter les bases d'une attaque qui pourrait ramener les Alouettes sur le chemin des séries l'an prochain. En attendant, les Oiseaux vont tenter de jouer les troubles faits. Aujourd'hui, ils tentent de balayer leur série annuelle contre la Saskatchewan. Rough Riders Alouettes, en direct du stade Percival Molson, au réseau Cogeco.
Le football des Alouettes. Au réseau Cogeco, c'est le football des Alouettes de Montréal. Retrouvons à la description Jean Saint-Onge et à l'analyse Steve Charbonneau.
Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce match qui marque le blitz contre la faim. Les partisans qui étaient invités à apporter des denrées non périssables. L'an dernier, les Alouettes et Burlator avaient amassé plus de 38 000 livres de nourriture au profit de Moisson Montréal. Donc, si vous êtes en route pour le stade, on espère que vous y avez pensé. Les cheerleaders des Alouettes, les bénévoles de Moisson Montréal et de Purolator vous attendent à l'entrée. Pour les Alouettes, c'est Enoch Mwamba qui était le parrain de l'événement. Il a fait le tour de la ville avec la Coupe Grey cette semaine. Et ceux qui arrivent aujourd'hui avec des denrées non périssables, ben, vous pouvez vous faire photographier, pas avec Enoch qui est déjà sur le terrain, mais bien avec la Coupe Grey. Tous les dons vont à Moisson Montréal qui distribue des aliments à plus de 241 organisme communautaire sur l'île de Montréal. Ça représente 137 000 personnes, donc 41 000 enfants. Donc, ça vaut la peine. Un qui est très bien nourri, et si je me fie à mon coup d'œil, c'est mon analyste Steve Charbonneau. Salut Steve!
Salut Jean! Belle intro, je suis bien nourri. Oui, je suis bien nourri. Un peu moins qu'avant, par exemple.
Hey, aujourd'hui, c'est aussi le match en hommage aux Forces armées canadiennes. Oui. C'est donc dire que les Alouettes vont porter leur troisième uniforme, le bel uniforme gris qui rend hommage à l'escadron des Alouettes, oui, qui a donné le nom à l'équipe. Et j'aime tellement leur casque aujourd'hui. Un casque blanc, une ligne bleue, le numéro du joueur sur le casque. On se croirait ou à Penn State ou à une autre époque. C'est le lien là avec l'armée canadienne. Les Alouettes les ont depuis longtemps.
Ben le nom effectivement vient de, tu l'as mentionné, là, vient de du premier escadron canadien-français là, pour l'aviation royale. Et c'est sûr que c'est très surprenant. Moi, je vais te dire, je l'ai vécu en tant que joueur d'être sur les lignes de côté. Et à la Coupe Grey, souvent, on fait passer les F-18.
Et là, c'est pas des F-18 non, aujourd'hui, là, mais on a deux avions qui vont passer.
Oui, c'est différent. Là, des CT-150, je connais absolument rien là-dedans, mais c'est vraiment impressionnant parce qu'ils font un vol à basse altitude, ils passent au-dessus du stade et ça fait vibrer vraiment le stade. Et quand t'es un partisan, t'es assis dans les estrades, tu peux sentir la vibration lors du passage. Mais quand t'es sur le terrain, moi ce que j'adore, Jean, je vais te dire ça, là, c'est quand ils chantent l'hymne national, t'es au plus gros match là, de la saison, t'es à Coupe Grey, ils chantent l'hymne national, puis juste au moment où la haute note de l'hymne national se chante, il passe les jets. Et là, tu vois un paquet de gros gars sur le sideline, des 6 pieds 5, 6 pieds 6, 300 livres, puis on a toute une petite larme. Parce que c'est un trop plein d'émotions à ce moment-là. Moi, j'adore. Écoute, j'ai un flashback à chaque fois que je vois des avions passer au-dessus du stade.
Ça m'amène tout de suite à... On a la situation presque opposée d'ici la fin de la saison. Tu parles d'un surplus d'énergie, d'émotion. Ouais. Et là, il reste 5 matchs. Mathématiquement, les Alouettes ne sont pas éliminées. Il y a, dans un film, il y a quelqu'un qui dit il y a 99,9% des chances qui sont éliminées, que vous soyez éliminés, mais c'est pas grave, on a une chance. Mais c'est un peu ça. Comme joueur, là, jouer ces 5 matchs-là, on les joue comment? Parce que on risque pas de s'en aller vers des objectifs individuels, se gagner un nouveau contrat, garder son emploi, ne pas se blesser pour continuer et oublier un peu les objectifs d'équipe et le travail en équipe?
Ouais, je pense que il y a peut-être un avantage justement à penser que les joueurs peuvent déjà avoir passé l'éponge sur la saison 2018 et on se voit déjà 2019. Donc on se voit déjà en camp d'entraînement et peut-être que ça change un petit peu la dynamique. De un moment donné, de jouer sans trop de pression comme tel, les gars vont jouer un peu plus relax, ils vont... Honnêtement, je pense pas. Les gars sont professionnels. Tant ou si longtemps qu'il y a
une
chance.
T'as-tu cette situation-là, tu vois, de jouer des matchs en fin de saison qui ne voulaient plus rien dire?
Ah, certainement, mais on est toujours professionnel. On veut être sur le terrain. Est-ce que, moi, ma peur, ma grande peur, c'est que pour l'ensemble des gars, là, la majorité des joueurs, Ils vont être sur le terrain, ils vont donner leur maximum. Mais tu viens de dire quelque chose. Il y a peut-être 2-3 joueurs sur le terrain qui veulent justement pas se blesser. T'sais, ils veulent finir la saison correctement, ils veulent être bien faire, parce que ça reste que ils sont toujours en, on est toujours en entrevue, dans le fond, pour un job dans la Ligue canadienne. Donc, peut-être que les gars, je l'espère pas que les gars soient déjà passés à 2000, t'sais, qu'on pense déjà à 2019. J'espère que tant si longtemps qu'il y a une chance, les gars vont être là, puis ils vont être combatifs, puis ils vont travailler fort pour remporter une, évidemment le match. Et comme tu l'as dit, si les Alouettes perdent aujourd'hui, bon, mathématiquement parlant, là, t'as un point.
Il va rester peut-être. Il faut gagner tous les matchs. Hamilton perd tous les matchs et il faut battre Hamilton par 40 points.
Ben, il va rester.
Perdent aujourd'hui, sinon ils ont un match de latitude.
Il va rester un poil de chance, là, mais honnêtement. Les gars sont pas fous non plus. Ils savent que l'Ouest est tellement forte cette année versus l'Est. Il va avoir un crossover. Et Montréal, malheureusement, fera pas partie, évidemment, des séries, selon moi. À moins qu'on gagne là et qu'on donne... Et tu sais, on sait pas, le Menzel, est-ce qu'il va sortir avec un gros match? Est-ce qu'on va être capable de le protéger? Je le sais pas. Mais ça va être difficile, oui. Mais c'est sûr que toi et moi, on va être là jusqu'à la fin et j'espère que les joueurs aussi.
J'ai demandé à l'entraîneur-chef Mike Sherman ce qu'il pensait justement de ces matchs dont l'enjeu était un peu moins important une fois que l'équipe était pratiquement éliminée. Et voici ce qu'il m'a répondu.
Told him this morning, you have 5 games left, about 20 practices. We're, you know, lay it out there. I mean, let's see what we can do. And maybe, you know, maybe we do, maybe we don't get in the playoffs. But we would have done something very unique to win 5 games in a row. So we start with Saskatchewan, which is a tough game, tough opponent, very well coached. And then we go from there.
Donc, je leur ai dit, c'était avant la séance d'entraînement de jeudi. J'ai dit aux gars, il nous reste 5 matchs, il nous reste une vingtaine de pratiques. Ils disent, on n'a absolument rien à perdre. On laisse tout ce qu'on a sur le terrain. Peut-être qu'on fait les matchs éliminatoires, peut-être que non. Mais il dit, on y va. Puis là, il dit, on fait face à un adversaire redoutable qui a quelque chose à jouer au cours des prochains matchs. Parce que là, dans l'Ouest, ça peut difficilement être plus serré. Il y a 3 équipes qui ont 7 défaites. Les Lions ont seulement 6 victoires, pendant que les Eskimos et les Blue Bombers ont 7 victoires et 7 défaites. Et un match devant, si on veut, ce sont les Rough Riders de la Saskatchewan qui ont leur fiche de 8-5. Pour revenir aux Alouettes, est-ce que la transaction de Tyrell Sutton, on laisse partir un vétéran, joueur autonome en février prochain, on lui donne une chance peut-être de participer au match éliminatoire. Est-ce que ça a dit aux autres joueurs, là, nous, c'est correct, on tourne les pages, la page sur cette année, puis on s'en va l'an prochain. Est-ce que c'est le message qui a été envoyé?
Ben, ils sont allés chercher un choix de repêchage en échange pour Tyrell Sutton. Sutton a donné de très bons services ici à Montréal. On le sait, c'est top 20 là, dans les porteurs de ballon dans la Ligue. Mais stand back, on a été agréablement surpris du côté de Montréal de voir ce jeune-là performer autant. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est un gars qui n'arrête jamais. Il travaille tellement fort. Puis c'est sûr que il faut pas que ça change. Parce qu'il y avait Tyrell Sutton devant lui. Donc, est-ce qu'il travaillait fort, justement, pour se tailler une place comme partant dans la Ligue? Parce que tout le monde, tous les yeux regardent les porteurs de ballon qui font bien dans la Ligue. Tous les yeux sont dessus. Donc, lui, est-ce qu'il sentait cette pression-là de performer? Et là, si Tyrell Sutton n'est pas là, j'espère que Stenberg va continuer à travailler de la même façon.
Mais peut-être qu'il y en a un derrière lui qui pousse également.
Oui.
Toujours est-il que je vais surprendre mon ami Mario Langlois en studio là, et je vais lui demander de changer l'ordre des extraits sonores. Il y a William Stenberg qui nous parle justement de Tyrell Sutton qui a été un peu son mentor depuis qu'il s'est joint aux Alouettes. Puis il l'aurait gardé avec lui peut-être un petit peu plus longtemps. On l'écoute.
When Sutty was here, he was teaching me a whole bunch of stuff that I needed to know, getting ready and preparing for the team that we're going against in the weekend. And I just wish that, you know, I wish I could have stayed with him a little bit longer so I can just learn the ropes of this league, because coming from America, it's a bigger field, longer field. The rules are totally different when it comes to the possession of having the ball and where you're at on the field. So I just wish I could have been with him a little bit longer just to learn a little bit more. But I feel like I learned enough to, like, carry on and continue from where he left off.
Je l'aurais gardé avec moi parce qu'il m'aidait tellement à bien me préparer, à connaître les tendances des autres équipes et tout ça. pour cette raison-là, principalement, il a été vraiment un bon mentor pour Standback. Quand je dis qu'il y a quelqu'un qui pousse derrière lui, là, il y en a un qui est en uniforme. On a vu depuis le début de la saison Ryder Stone, qui était le troisième porteur de ballon et qui retournait des bottés. Là, il est sur la liste des blessés pour un match. Mais c'est Lawrence Pittman qui s'amène. Pittman, c'est le plus jeune joueur au sein de la formation des Alouettes. Il n'a pas encore 23 ans. Il va avoir 23 ans en novembre. Belle carrière à l'université Wingate. Petite université que John Bowman connaît bien. C'est son alma mater. C'est un gars de la Caroline du Nord. L'an dernier, 11 touchés en 11 matchs. 1262 verges, une moyenne de plus de 100 verges par match avec un touché par rencontre. Reste à savoir s'il peut capter des passes parce qu'il ne l'a pas fait beaucoup à l'université. Reste à savoir s'il peut bloquer. On sait qu'il devrait être en mesure de bien protéger le ballon, seulement 9 échappés en 700 courses.
Ce qui est très important, ouais.
Au collège. Sauf que, est-ce qu'il sera capable de pousser un peu dans le dos de Standback? Est-ce que c'est un autre candidat qui est en évaluation? C'est une autre chose. Coach André Bolduc va pouvoir l'évaluer un peu mieux au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, il y a l'entraîneur-chef, Mike Sherman, qui nous a dit, lui, dit là, les statistiques disent qu'il peut protéger le ballon. Mais dit, dans les entraînements ici, on ne se frappe pas, on ne porte pas des épaulettes. Il dit, est-ce qu'il est capable de protéger le ballon contre des hommes, contre des joueurs professionnels? Il dit, ça, c'est à voir et on va commencer à le voir quand il va sauter sur le terrain.
C'est toujours boiteux un petit peu, excuse-moi Jean, mais c'est toujours un petit peu boiteux de faire une comparaison avec les statistiques universitaires, puis on arrive dans les pros. Regarde, on le voit, Menzel, qui était dans les pros, qui a de la misère à s'établir comme carrière partant dans la Ligue canadienne. C'est un peu la même chose pour les porteurs de ballon et les receveurs. Il y a une période d'adaptation, donc on regarde ce qu'ils ont fait à l'université. Oui, on est toujours comparé à ce qu'on a fait dans le passé, mais il faut faire attention. Un gars comme ça peut arriver justement, puis comme meet his match. Tu sais, là, il arrive ici, puis effectivement, tout le monde sur le terrain ont été des vedettes dans leur paroisse. Fait que c'est sûr que là, tu l'as dit, c'est tous des hommes là, sur le terrain. C'est pas péjoratif, là. Je veux dire, c'est rien contre les femmes, mais dans le football professionnel, dans les Canadiens, est-ce que je sache qu'il n'y a pas de femmes? Donc, c'est effectivement, ce sont tous des vedettes. Ou à peu près qui ont été dans le universitaire puis qui ont appartenu à des équipes de la NFL. Et là, ben lui, il arrive ici, puis c'est un jeune, c'est intimidant, puis il faut qu'il performe autant qu'il l'a fait dans les rangs collégiaux, ben on verra.
Et pour les joueurs américains, tu parles d'une étape à franchir pour devenir un joueur professionnel. Eux, c'est peut-être deux étapes parce qu'ils doivent aussi apprendre les règles de jeu qui sont différentes. Apprendre, parce que le joueur défensif de plus, c'est peut-être lui qui va arriver, qui va te frapper.
Oui.
Parce que tu ne l'as pas vu venir, le demi-défensif de plus. Toujours est-il qu'on aura l'occasion aujourd'hui probablement de voir un peu Lawrence Pittman.
Oui.
C'est lui qui, à l'entraînement cette semaine, retournait les bottés avec Stephen Logan. Il y a également quelques jeux, d'après ce qu'on a vu à l'entraînement, qui pourraient lui être réservés en attaque. Donc, à suivre dans le cas des porteurs de ballon. Mais une chose est certaine, Tyrell Sutton, un gars extrêmement sympathique,
ouais,
s'en va essayer d'aider Wally Buono à terminer sa carrière en beauté avec les Lions de la Colombie-Britannique. Et pour un gars comme André Bolduc, l'entraîneur des porteurs de ballon, c'est un gros morceau qui s'en va parce que André, ça fait 5 ans qu'il est maintenant entraîneur avec les Alouettes. Deux fois, il était avec les porteurs de ballon. Et Tyrell Sutton est un gars qui prenait de la place dans le vestiaire, dans la salle de réunion avec les porteurs de ballon. Bref, ça lui fait un petit quelque chose de voir le porteur de ballon Tyrell Sutton se retrouver avec les Lions de la Colombie-Britannique. On écoute André Bolduc.
C'est une journée difficile, honnêtement. Quand tu apprends ça, c'est sûr que c'est l'entraîneur-chef qui me l'a appris, là. Et puis, ça a créé un vide. On a communiqué ensemble, puis on a jasé. Nous, on avait vraiment planifié là, de rester ensemble encore longtemps, tu sais. On parlait déjà de l'an prochain et tout ça, comment on voyait les choses. Sot et moi, on avait une relation spéciale parce que moi, j'exigeais tout le temps qu'il soit meilleur lors des matchs. Je voulais qu'il soit parfait. C'était l'objectif. Parfait mentalement, parfait physiquement. Puis lui, d'un autre côté, me forçait à être vraiment exigeant en pratique, à corriger tout ce qu'il faisait, jamais être positif. Il voulait que je sois très pointilleux. Fait qu'il a fait de moi un bien meilleur coach que j'étais avant. Et lui, c'est un joueur de très haut niveau. Donc, c'est difficile de laisser un gars partir comme ça, honnêtement. C'est comme un de tes enfants, à un moment donné, là, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble à discuter de foot, mais à discuter de plein de choses aussi. Donc, c'est une lourde perte, puis ça paraît dans la chambre des porteurs aussi.
Moi, Jean, j'ai un point que je veux ajouter au commentaire d'André là-dessus, parce que tu as vu ma réaction quand André a dit « c'est le coach qui me l'a appris que Tyrell Seton était parti ». Comment ça que André Bolduc n'a pas été consulté dans cette transaction-là ou avant de faire la transaction pour dire « Hey, buddy, voici les options. On a l'option de peut-être laisser Seton partir à BC. Qu'est-ce que tu en penses? » Ça, j'ai un petit peu de difficulté. C'est un sport d'équipe, autant sur le terrain que ça devrait l'être au niveau dans les bureaux. Et ça, pour moi, ça me titille toujours un petit peu de quand on me dit que lui, il l'a appris, il était comme le dernier à l'apprendre. C'est pourtant l'entraîneur des porteurs de ballon.
Et qu'il y a... On est en train de jeter les bases de l'équipe pour l'année prochaine et qu'il n'ait pas fait partie de cette réflexion-là. Ou Kavis Reed se dit, il est joueur autonome, peut-être si on a encore besoin de lui, on peut lui faire une offre et peut-être qu'il reviendra. Pis, si les choses ont été faites correctement, les ponts ne sont pas brisés.
Puis honnêtement, je trouve ça un petit peu brouillon, mais Kavis Reed a fait a travaillé comme ça depuis 2 ans. Et ça me surprend pas de Kavis Reed. Par contre, moi, je dirais que dans une organisation de marque, une organisation qui fut un temps où toutes les équipes dans la Ligue regardaient Montréal étant comme la référence comme équipe, comme organisation, même si on avait plusieurs voyaient Jim Popp, disons, comme un gars qui était...
Disons, certains joueurs, certains agents trouvaient que Jim Popp avait la coupure facile, la coupure de salaire facile.
Peut-être, mais oui, mais là, depuis 2 ans, je trouve qu'il y a des décisions qui se prennent que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre, puis on nous les explique pas comme on devrait nous les expliquer à nous, les médias. On devrait nous dire exactement c'est quoi la stratégie derrière ça. Et on y va toujours des discours ou bien pré-mâchés, là, des affaires de la cassette. Honnêtement, moi je suis content pour Stan Back. C'est un jeune qui peut être effectivement
24 ans,
qui peut effectivement aider Montréal pour plusieurs années. C'est selon moi les statistiques là, qui démontrent présentement aurait pu être un des top porteurs de ballon dans la ligue.
Moyenne de 6,4 verges par course.
Exactement, mais en même temps, Stan Back était le premier à le dire qu'il serait probablement, il aurait probablement pas eu le début de saison ou le début ou je dirais la saison que lui a eu comme numéro 2 si Tyrell Seton n'avait pas été là pour l'aider là-dedans. Donc, c'est difficile à dire.
Maintenant, parlons de Johnny Manziel. On peut pas faire une émission d'avant-match sans parler de Johnny Manziel peu.
Es-tu ici à Montréal, lui?
Quatrième départ, à la recherche d'une première victoire et surtout d'une première passe de toucher. 3 départs avant de lancer sa première passe de toucher pour une recrue des Alouettes. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé?
C'est toi le gars des stats, ça. Aucune...
J'étais même pas au monde. La dernière fois qu'un quart arrière...
Et ça fait longtemps.
Et 1961, quart du nom de Nelson Yarbrough, alors que la carrière de quart arrière de Sam Echeverry tirait à sa fin, on cherchait le remplaçant. Et lui, il nous est arrivé de la Virginie, les Cavaliers, une bonne équipe, mais il n'avait pas joué beaucoup. Mais non seulement il arrivait de là, il arrivait 2 ans dans l'armée. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué. Donc, ses 3 premiers matchs ont été laborieux, puis finalement, il en a joué seulement 4. Puis, il n'a pas poursuivi sa carrière au football. Donc, on va revenir à Johnny Manziel. Qu'est-ce qu'on doit voir de lui au cours des 5 prochains matchs?
Ben, il y a eu une belle progression. Il faut lui donner ça. Là. T'sais, il est parti il est parti la semaine passée. Là, il a quand même eu presque 200 verges de gain par la passe. Je me trompe pas, j'ai pas les statistiques devant moi. Toi, sûrement que t'es là. Mais c'est une petite progression quand même correcte pour lui. Le temps de s'adapter. Combien de temps qu'il va avoir besoin pour s'adapter, j'ai aucune idée. C'est sûr qu'il arrive dans une équipe où on cherche un peu notre identité. On a de la difficulté à savoir si on est une équipe de passe, une équipe au sol. Là, ben, on a de la difficulté à présenter des formations équilibrées. On a une ligne à l'attaque qui protège plus ou moins. Je pense que c'est comme 13 sacs du corps dans les 2 derniers 12, matchs. 12, 13.
Mais qui a connu 3 bons matchs et puis qui là semble avoir eu des ennuis à nouveau la semaine dernière. On nous avait dit que Natai Rogers serait le bloqueur à droite. On est revenu avec Jameson. Aujourd'hui, à nouveau, on nous dit que c'est Rodgers qui va amorcer le match comme bloqueur à droite. On n'est pas certain parce qu'à l'entraînement, on s'est partagé le travail pas mal à 50-50. Bref, la ligne à l'attaque doit faire du meilleur travail pour protéger Manziel.
Bien, certainement, surtout contre Saskatchewan. Saskatchewan, c'est quand même, t'as deux bonhommes aux extrémités qui ont un total de 20 sacs à eux seuls sur 31 pour l'équipe. On a le gros Jefferson, numéro 7, 6 pieds 6, 245 livres. Et on a aussi, de l'autre côté, évidemment, numéro 39, Hughes, qui, lui, en a 13 à lui tout seul. Et t'as mentionné quelque chose.
C'est lui qui mène la ligue, Charleston Hughes.
Mais qui est...
Au cours des trois derniers matchs, il n'y en a pas.
Il est en panne. C'est sûr qu'il vient ici.
Il mène toujours la Ligue avec 13.
C'est fou, hein?
Mais ça fait trois matchs qu'il n'y en a pas. J'imagine que quand il regardait les films du match des Alouettes la semaine dernière, il devait avoir un petit peu de bave là, au coin de la bouche.
Certainement, parce que Washington, tu l'as mentionné, Washington et Jameson ont eu beaucoup de difficultés. D'ailleurs, ont eu quelques pénalités. Je pense que c'est trois ou quatre pour hors-jeu parce que les gars étaient tellement nerveux des pass rush à l'extrémité qu'on volait le compte un peu trop tôt, et donc on était appelé par, évidemment, les arbitres appelaient les pénalités, puis et là, aujourd'hui, tu regardes ces gars-là, Hughes puis Jefferson, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de mouvements sur la ligne défensive, on va y aller de rapidité.
On parle de la défense de Chris Jones, là,
en plus. Qui est une... bon, c'est sûr que c'est lui, il en prend une fierté incroyable.
Pour ceux qui n'identifient pas Chris Jones, c'est un grand coach défensif qui a été ici à Montréal, qui est maintenant l'entraîneur-chef des Rough Riders. Et c'est jamais simple avec lui, les défenses. Puis c'est un gars qui est innovateur aussi. On l'a vu utiliser Deron Carter comme demi de coin. Son demi de coin qui a pris la place de Deron depuis... En fait, Deron jouait parce que Nick Marshall était blessé. Marshall, c'est un gars dont il se sert également à l'occasion en situation de court gain pour courir avec le ballon. Chris Jones est innovateur, il aime surprendre l'adversaire.
Oui, puis il était là dans le temps de Don Matthews. Tu sais, c'est un gars, Don Matthews, il avait la réputation du gars qui risquait beaucoup, mais qui c'était payant. Chris Jones, c'est exactement ce qu'il fait avec sa défensive. Il va avoir, en sachant qu'il y a une ligne à l'attaque qui connaît des difficultés, disons, pour être poli, et c'est sûr qu'ils vont blitzer, ils vont emmener plein de monde, et puis ça, ce que je souhaite, c'est qu'un gars comme Manziel réussisse à quand même, sur 60 minutes, de rester sur ses deux pieds.
Oui, parce que...
J'ai peur qu'il se blesse.
Manziel, en passant, les statistiques, c'est 212 verges la semaine dernière, 18 en 25. C'est la première fois qu'il franchissait le cap des 200 verges avec les Alouettes. Je lui ai demandé cette semaine à Johnny Manziel qu'est-ce qui manquait à l'attaque des Alouettes. Puis là, tu vas voir, tu vas bien t'entendre avec Johnny Manziel. Il a l'air de penser à peu près comme toi. On l'écoute.
I think we just need to have some shots down the field, you know, converted. You know, you look last week towards the end of the game, we throw a post at about a 50, 60 yard mark down the field, and you know, it gets batted away. You know, we need some of those plays to end up in our favor. Continuously and consistently throughout the weeks that we have in the season. You know, we need to, like Coach Sherman said this today, you know, eliminate the explosive plays, the 12-yard runs and the 18-yard passes on the defensive side of the ball. But for the offense and our side, you know, we need to amp up and ramp up our explosive plays on offense. And I think that's what, you know, we really need to try and do throughout the remainder of the season.
Comme tu nous dis presque à chaque match, il faut qu'il aille dans les zones profondes de temps en temps. Il faut qu'il essaie, même si ça ne fonctionne pas. Mais lui, ce qu'il nous dit, il dit qu'il faut qu'on convertisse quelques-uns de ces jeux-là. Il dit d'ailleurs, l'entraîneur-chef Mike Sherman nous en a parlé cette semaine à l'entraînement. Il dit des gros jeux, des grosses courses et des longues passes. Il dit qu'il faut qu'en défense, on limite. Mais là, il dit qu'il faut qu'on en réussisse aussi en attaque. Bref, il ne faudrait pas être surpris. La question, cependant, c'est... Est-ce qu'ils ont le personnel?
Bien, c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'ils ont le personnel assez rapide pour créer cette séparation-là entre le receveur et le demi de coin pour être capable d'aller chercher des gains sur les passes? T'sais, on regarde là, les gains, les passes captées de 30 verges et plus. Là. B.J. Cunningham en a 2. Lewis, 5. Ernest Jackson, 3. Donc, est-ce qu'on est vraiment capable d'y aller? Oui, un peu.
Ben, on était allé chercher Chris Williams
pour ça.
Pour ça. On pensait que TJ Graham pouvait le faire. Il a la vitesse pour le faire, malheureusement. Ouais. Il n'a peut-être pas les mains pour le faire avec une certaine constance.
Ouais.
Il n'est pas en uniforme. C'est drôle parce qu'en début de semaine, dans ma chronique du côté Radio-Canadien de mon emploi, je disais bienvenue à la saison 2019 des Alouettes. Je disais fallait qu'il aille chercher des receveurs de passe. Je sais pas si Kevin Swede m'a lu ou bien qu'il était d'accord avec ça. Mais cette semaine, on est allé en chercher des receveurs éloignés qui arrivent des États-Unis. On est allé chercher Zach Parker et Damon Powell. Parker, c'est un gars de Virginia State. 34 passes captées, 676 verges. Donc, vous voyez la moyenne de gains. C'est un gars qui est capable d'étirer le terrain. C'est un gars qui est capable de retourner des bottés. Même chose pour Damon Powell de l'Université de l'Iowa. Lui, c'est une histoire un peu particulière. Il a signé un contrat de joueur autonome avec l'Arizona dans la NFL. Mais avant le camp d'entraînement, il a été atteint par balle au visage. Et là, je ne parle pas d'une balle de baseball. Là. Il était à l'extérieur de la maison de sa mère. Des tireurs en automobile qui faisaient le ménage dans le quartier. Une lutte entre gangs de rue. Il n'a jamais eu la chance de se faire valoir vraiment. Powell, avec les Cards, ils l'ont libéré par la suite. Il a joué au Arena Football. Donc, il obtiendra peut-être avec les Alouettes sa première chance de se faire valoir. Bref, le joueur dynamique qui peut étirer le terrain, semble-t-il, Mike Sherman et Kevin Swede sont à sa recherche.
C'est ce qu'on va avoir besoin d'avoir un marchand de vitesse à l'extérieur pour vraiment que les DB, les demi de coin respectent et même amener un peu le maraudeur à venir aider aux extrémités parce que évidemment un receveur qui est très rapide va appeler le maraudeur à venir aider le demi de coin. Donc ça crée peut-être d'autres ouvertures ailleurs, une petite passe en croisée dans les zones centrales. C'est des choses que. Mais là, présentement, on a de la difficulté à se faire respecter au niveau des receveurs. Et ça, ben, on est très agressif de l'autre côté, du côté des adversaires. Et ce que ça peut créer aussi, c'est des interceptions. Donc, on voit les films. On voit que nos receveurs reviennent pas chercher le ballon, reviennent pas vers la carrière ou vers la passe. Donc, on est là, on est statique comme receveur. Tu ne peux pas te permettre ça. Quand tu arrêtes, exemple sur un hitch, tu fais ton hitch, puis tu vois que la passe n'est pas là dans tes mains, tu vas la chercher. Et là, les autres équipes, ils voient très bien que du côté des receveurs, on fait pas ça. Donc, on coupe la ligne de passe et malheureusement, on a eu plusieurs interceptions dernièrement, mais des interceptions coûteuses.
Avec des receveurs statiques.
Statiques, des interceptions coûteuses qui ont coûté des touchés. Donc, tu sais, quand tu passes sur les lignes de côté puis tu fais intercepter, il n'y a pas grand monde pour aller faire le plaqué, là. Donc, c'est ça qu'il va falloir jouer son rôle correctement, faire ses tâches, assignment. Pardon mon anglais. Assignment, c'est...
Assignation,
ses tâches correctement. Et honnêtement, qu'on joue du bon football discipliné. Et ça, je trouve que dernièrement, on a un petit peu de difficulté avec ça. Donc, c'est la même chose sur la couverture de passe. Donc, on respecte, de l'autre côté, on respecte beaucoup trop les receveurs de l'équipe adverse. Donc, on laisse beaucoup trop d'espace. On n'est pas assez agressif et c'est ça qu'il va falloir trouver une solution.
On fait une première pause. Au retour, on parlera un petit peu des méchants. Les Rough Riders de Saskatchewan sont en ville et ils sont dans une lutte à finir dans la très serrée et très puissante division Ouest de la Ligue canadienne. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, de retour au football des Alouettes avec Jean Saint-Onge et Steve Charbonneau.
Les Alouettes accueillent les Rough Riders de la Saskatchewan. C'est le dernier match de la semaine dans la Ligue canadienne et les résultats des derniers jours ont pratiquement assommé les Alouettes, si bien qu'on se retrouve avec, dans l'Ouest, une lutte exceptionnel. Saskatchewan, 8 victoires, 5 défaites. Winnipeg, 7 victoires, 7 défaites. Edmonton, 7-7 également. Et BC, les Lions de la Colombie-Britannique, 6 victoires, 7 défaites. Steve Charbonneau, qui finit deuxième, qui finit troisième et qui vient jouer dans l'Est?
Et ça va être difficile. Honnêtement, là, je pense que les Eskimos vont passer devant... Et ça pourrait jouer sur le dernier match de la saison pour eux autres, puisqu'ils vont jouer un contre l'autre. Donc, ça va être
les
vraiment intéressant.
Les Bombers de Winnipeg vont rendre visite aux Eskimos. Et hier, ils ont gagné à Edmonton. Edmonton, seulement 3 points, 33. Mike Riley s'est fait brasser.
Ouais. Ça va être une lutte vraiment intéressante jusqu'à la fin du côté de l'Ouest. Et c'est sûr qu'ici, on sait à peu près qui est les deux équipes qui vont faire 1 et 2. C'est la troisième place dans l'Est qui est un gros point d'interrogation, mais ça commence à...
Mais de la manière que Hamilton a joué hier, je serais même pas surpris qu'il devance le Rouge et Noir d'ici la fin de la saison, mais c'est une histoire à suivre. On s'en va en pause. Au retour, le match d'aujourd'hui entre les Rough Riders de la Saskatchewan et les Alouettes de Montréal. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.